Vous écoutez
RMC.
Et oui, elles sont là comme tous les lundis, bien sûr, étincelantes, en forme, pour défendre leur championnat respectif. Ou pas, parce que des fois, bon, c'est qu'au moment de moins bien aussi. Julien Laurent, c'est parmi nous en Angleterre. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Polo Breitner, salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. L'Union de Berlin va se maintenir.
Fred Hermel à Madrid, salut Fredo.
Suite à une discussion un peu spéciale avec un runner ami de Gilbert Bribois, je viens de me faire un Bordeaux avec une raclette. Oh, la psychose.
Toi, t'es fantastique. On racontera l'histoire tout à l'heure.
Oui.
Et puis, évidemment, il rentre d'Argentine, je vous le signale. Il est comme ça. Simone Rovera, il est revenu en Italie, il est rentré à la maison. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Donc, je reçois dans le magnifique podcast J'aime courir que je conseille tous, l'excellent Johan Stuck, trailer de très haut niveau, qui distille quelques conseils sur les réseaux sociaux et qui dit qu'il a trouvé, je sais plus ce que c'était, des bons légumes bio qu'il voulait conseiller à tout le monde. Et là, le père Hermel,
Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes ?
On veut de la bidoche.
Mais non, c'est pas ça, c'est ton pote là qui nous fait tout un truc en disant avant je sortais, je bouffais des pizzas tous les jours, etc. Maintenant, voilà.
Maintenant, grâce au sport, il va mieux.
Ouais, maintenant, mais je mange plus, je fais tout ça. Non, mais le genre de discours là, de repenti, mais moi, ces nouvelles religions là, ça me gave. Mais moi, j'ai toujours bien mangé. Moi, je suis pas repenti. J'ai jamais bouffé une pizza par jour.
Bravo, moi, Fred.
C'est pour ça, moi, je suis bravo. Mais non, mais moi, c'est cette nouvelle dictature.
La religion du progrès, insupportable.
Ah, mais ça, c'est insupportable. Maintenant, il faut bouffer des graines et courir tous les jours.
Ils bouffent des graines, les mecs, bouffent des plantes.
Et ça sert à mon pote, moi, je rien contre lui. Mais je vois sa photo avant. Il avait une bonne tête. Maintenant, il fait maigrichon avec sa barbe.
Les mecs, ils ont même pas besoin d'ouvrir les portes, ils passent directement dans l'autre coin. Là. C'est insupportable.
Voilà, donc, ils ont pas besoin.
Je veux défendre mon ami Johan Stuck, puisque c'est de lui dont il s'agit, et je l'invite un soir dans l'after à venir vous expliquer comment vous allez mieux vous sentir dans votre vie. Messieurs Hermel et Breitner, en mangeant moins et en faisant un peu plus de sport.
Mais attendez les mecs. Mais moi, ce qui m'énerve dans ce... Non, mais je suis sérieux là-dessus. C'est le côté avant, je faisais n'importe quoi et maintenant, il faut faire comme moi, il faut être quasiment à moi. Mais moi, j'ai jamais fait n'importe quoi.
Il a essayé d'évangéliser personne, je crois.
Tu rigoles ou quoi?
Il dit juste modestement, je donne quelques petits conseils. Tu les prends pas.
Non, mais Gilbert, il voit que tu te dégrades, donc c'est pour ça, il donne des conseils.
Mais non, je suis en très bonne forme. Je mange très bien, je mange pas de la viande tous les jours, je mange des légumes.
Je suis sûr que ton gros c'est O.
Moi, c'est O+.
J'en étais sûr. Ça, c'est les bouffeurs de viande.
Bah oui, mais j'en ai besoin. Mon corps a besoin de viande rouge. Excuse-moi, moi, j'écoute mon corps.
Si t'étais un A+, tu mangerais plus de légumes.
Voilà. Ce qui est important, c'est de manger ce dont ton corps a besoin. Et moi, quand je mange trop d'un truc, je le sens, j'arrête. Et moi, si j'ai pas mangé au moins 500 grammes de viande rouge par semaine, je me sens pas bien. Voilà.
Moi, par jour.
Oui, ben ça, parce que toi t'es au plus.
Cette discussion. Ah,
Polo, merci, heureusement t'es là, je te jure. Je te jure, ce monde.
Je remarque que Julien Laurence n'a rien dit, parce que lui il préfère ne pas se mêler de ces histoires-là, vu qu'il sait très bien que vous avez tort.
Déjà, il habite en Angleterre, mais la bouffe, c'est fini.
On a de la viande rouge en Angleterre quand même, c'est pas parce que t'habites en Espagne que.
À Londres, ça va. Julien, avec le Brexit, vous aurez toujours de la viande ou pas?
Non, mais votre viande,
ça coûtera plus cher, Kevin, c'est tout. On en aura encore, mais ça coûtera plus cher.
Bon, allez, on y va. Juste avant, le point sur Lens Grenoble, Jean Baumel.
Ouais, toujours 0-0 de Nantes traditionnel. Il reste 2 minutes 30. Ouais, Fred, il est stressé, là, je le sens, là. Il voit pas les Lensois s'imposer pour l'instant, mais bon, voilà, les deux matchs à domicile consécutifs, il y a une victoire contre 3. 0-0, les 18% de. Voilà, pour l'instant, on y est, hein.
C'est compliqué. Négative aujourd'hui.
Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. 0-0. C'est un point, les mecs. On est deuxième. Pour l'instant,
mais ça fait 5 points
première division.
Ça fait 5 points
sur le troisième, ce qui est quand même
c'est
important.
C'est la Ligue 1 maintenant.
Premier tour de table tout de suite, les gars. Premier tour d'Europe.
Quand
redescends, en tranquille, t'inquiète pas, tu vas pouvoir manger ta viande. Maintenant, on va parler du championnat espagnol.
Ah ouais, j'ai des trucs à dire là.
L'info principale du week-end en Angleterre, tout d'abord, Julien.
Alors, moi, c'est tranquille, déjà, c'est la trêve ici, donc on avait que 3 matchs ce week-end de première ligue. Plus la tempête Kiara, tranquille, mais on peut vous parler de Carlo Ancelotti qui a, j'allais dire ressuscité, mais en tout cas relancé complètement cette équipe d'Everton qui était quasiment dans la zone des relégables au moment de son arrivée à la fin du mois de décembre et qui aujourd'hui est aux portes de l'Europe. Carlo qui, dans son style habituel que Fred connaît bien, qu'on connaît tous plutôt bien, a su redynamiser cette équipe, même si Duncan Ferguson l'avait fait dans l'intérim entre Marco Silva et Carlo Ancelotti, mais il a su continuer à garder cet état d'esprit-là en relançant certains joueurs comme le jeune Calvert-Lewin devant, comme Richarlison par exemple, comme le Brésilien Bernat. Et c'est vrai que avec un mélange de man management, comme il sait très bien faire avec ses joueurs en étant très proche de son vestiaire, et puis aussi une organisation tactique un petit peu plus disciplinée que ce qu'on avait l'habitude sous Marco Silva, il a complètement relancé cette équipe. Et même s'ils ont des gros matchs maintenant à venir avec Arsenal, avec Chelsea, avec Liverpool, le derby, et Manchester United aussi, c'est vrai que pour l'instant il a fait du très très bon travail depuis la fin décembre. D'ailleurs, seul Liverpool a remporté plus de points en Premier League qu'Everton depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti en Angleterre.
Mais, ou le retour, Julien, de Carlo en Angleterre. Il y a quelque chose de très important à signaler dans son staff. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller à Liverpool pour voir Everton, mais son staff, c'est des gens très jeunes en fait. C'est Davide, son fils.
Oui, son fils,
et
notamment.
Et le préparateur physique qui s'appelle Francesco Maoli, que j'ai connu à Madrid aussi, qui était le fils du préparateur physique du Real à l'époque, Giovanni Maoli. Et en fait, c'est des gens qui ont des idées nouvelles aussi. Et lui, il est un petit peu en fait le espèce de parrain ou de papa de toute une génération de gars qu'il est en train de lancer. Et donc, il faut pas croire que c'est le du bon vieux Ancelotti, non. C'est du Ancelotti avec des idées nouvelles et des jeunes qui sont en train d'avancer dans le métier du foot, quoi.
Alors, on va quand même parler de Guardiola dans quelques minutes. Et puis, il faudra que tu nous racontes comment les Anglais ont réussi à inventer le concept de trêve sans faire la trêve, en fait. Ils sont quand même très forts.
Parce qu'en gros, c'est très fort. C'est très et aussi Djibril Sidibé, hein, qui nous en a quand même fait une très très belle ce week-end.
Je croyais que tu allais nous parler donc de l'affaire de la chaussette, en effet.
Alors, oui, c'est ah bah oui.
Alors, attendez, on y arrive, on a le temps hein, ce soir, mais Tour d'Europe d'abord, l'info principale en Italie, Simone.
L'info principale, c'est qu'il y a eu un derby magnifique et qu'avec la défaite de la Juve, l'Inter est aujourd'hui en tête à côté des Bianconeri. La Lazio juste derrière d'un point, donc on a un championnat en tête vraiment, vraiment extraordinaire. Et on peut pas diviser les deux choses parce que d'un côté il y a des énormes polémiques dans la maison Juve avec les supporters qui partiellement en veut plus de Sarri, ou il y en a un bon parti qui en veut plus de Sarri avec les hashtags Sarri out qui commence à sortir, et ça a été le cas après la défaite de Verona. Et de l'autre côté, les derbies a été vraiment un très beau spectacle pour le foot italien.
Ouais. avec on l'a suivi hier soir.
C'est score 4-2 avec un scénario magnifique pour l'Inter, bien sûr, parce que mener 2-0 à la mi-temps, arrive à marquer 4 buts en deuxième mi-temps, montre tout son caractère, sa qualité et la force d'avoir un coach comme Antonio Conte. Je ne peux pas que dire que l'Inter a une identité et une âme qui c'est celle d'Antonio Conte, et la Lazio a une identité bien précise tactique qui est celle de Simone Inzaghi. La Juve pour l'instant n'a rien de Maurizio Sarri, et si ça continue comme ça, la Juve est toujours favorite, mais
ça, oui, ça peut être chaud jusqu'au bout là.
C'est
passionnant, en tout cas.
C'était un sacré match, hein, Simone, hier. Vraiment, il y avait
moi, je l'ai vu cet après-midi.
Ah ouais,
j'étais dans l'avion.
J'ai regardé hier en même temps.
Parce que Milan menait 2-0 et l'Inter renverse complètement le score.
Ouais, l'Inter. C'est
la tête qui met un poteau à la fin.
Poteau. Non, mais même l'Inter, c'est peut-être leur année, en effet, parce qu'ils ont eu de la réussite. Bien sûr, quand t'es mené 2-0 à la mi-temps, revenir comme ça, gagner 3-4-2, c'est que t'as une grande force de caractère, mais aussi beaucoup de réussite. Et c'est le cas. Lukaku, il est quand même énorme. Moi, j'ai trouvé un Lukaku sensationnel.
Il
vraiment,
va plus vite avec le ballon, j'ai l'impression.
Pas seulement pour le but.
Non, mais dans le jeu, ses remises. Ouais. C'est
vrai que, et puis défensivement, même offensivement sur ce corner, je sais pas d'où il vient ce défenseur-là, avec un nom difficile à prononcer, mais pas mal du tout. Hein. Comment ?
Qui dévraille.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
Je comprends, mais.
Et si dans les titulaires, sur les 22 titulaires, 6 joueurs qui sont passés par l'Angleterre, messieurs, quand même. Hein.
Bah oui, parce que vous en voulez pas dans vos équipes.
Ah bah non, mais juste ça là, je vous pose juste ça là. 6 sur 22.
Après, j'ai l'impression que. Tu es en championnat anglais pour rigoler ? Vas-y.
Pardon?
Le pourcentage de footballeurs anglais.
Non, mais nous, on est en vacances, là. Je t'ai dit, on est en vacances tranquille, là. Ça compte pas ce week-end.
J'avais l'impression que tu étais un peu polémique sur l'arrivée des Ashley Young à l'Inter, un peu maison de retraite. Peut-être, au niveau des rythmes, c'est plus
dans
simple.
Dans un championnat de seconde zone comme ça, forcément, il est étincelant.
Bah, écoute, elle était dans une équipe des secondes zones, donc, il aurait pu quand même faire quelque chose de plus chez vous,
hein. L'info principale en Allemagne, maintenant, mon petit Polo.
Il y en a plusieurs, mais je dirais que surtout, je vais dire le classement, et que le championnat est relancé, suite au 0-0, qui est une véritable surprise tout de même, entre le Bayern Munich et le RB Leipzig. Leipzig n'allait pas bien depuis la reprise du championnat, et ils ont fait un match assez extraordinaire défensivement, notamment en première mi-temps. Alors on peut évidemment trouver que le Bayern aurait pu mener 2-0, 3-0 à la mi-temps, sauf qu'en deuxième mi-temps, c'est plutôt Leipzig qui a dominé et qui a eu les occasions nettes pour ouvrir le score. Malheureusement, Timo Werner n'est pas dans la forme de sa vie, c'est un grand classique. Et le vrai problème, c'est que ça relance vraiment le championnat, parce que dans mes savants calculs, Leipzig redevient quelque part le favori pour le titre 2020. D'autant plus, ne l'oublions pas, que je profite pour le passer tout de suite, on parlera je pense un petit peu de Dortmund après, le match Mönchengladbach entre Cologne, qui est quand même le deuxième derby le plus important d'Allemagne derrière Schalke Dortmund, a été annulé pour des conditions climatiques, hein, c'est la première fois depuis 8 ans, comme quoi tu vois mon cher Gilbert que le progrès scientifique ne fait pas tout, et derrière ça, si tu veux, c'est génial pour le haut du classement, parce que tu as aujourd'hui 4-5 équipes qui peuvent, enfin au minimum 4, qui peuvent rêver au titre 2020.
Dans quelques instants, on continue le programme. On a le temps avec les drôles de dames encore pendant une bonne demi-heure ensemble.
Je sens qu'il y a
de
la censure suite à mes critiques sur les runners.
Non, pas du tout. T'inquiète pas. nous sommes très ouverts. Tu le sais très bien, Fred. À tout de suite dans l'after. 0-0 entre Lens et Grenoble. Le match est terminé. Hein, score final 0-0. Et puis n'oubliez pas, pour gagner les places pour Dortmund PSG, vous envoyez foot par SMS au 732-16 pour encore le vin pendant une demi-heure. À tout de suite à l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Bretagne, Kevin Diaz, Frédéric Roulier qui est avec nous ce soir, les drôles de dames bien sûr. L'info principale en Espagne, mon petit Fred, c'est quoi? Fredo?
Barcelone a gagné, ça y est, il a coupé.
Il est allé courir,
Ah mince alors. Bon, ça a coupé, on va le retrouver dans quelques instants. Bon, ben voilà. Bon, alors, du coup, Polo, je reste avec toi. Évidemment, on veut les infos Dortmund de la semaine. Donc, il faut faire le point, on t'écoute.
Bon, déjà, il y a eu ce match extraordinaire entre Leverkusen et Dortmund. C'est très intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que Leverkusen est une petite équipe lorsqu'on entend tout ce qui se passe, notamment en France. C'est-à-dire que Leverkusen, il y avait juste 7 internationaux allemands au départ, quand même, sur le 11 de départ. Donc, c'était pas neutre. Et
Polo, a retrouvé. Juste évidemment... une seconde.
Oui.
Est-ce que tu penses que Leverkusen terminerait deuxième derrière le PSG, parce que c'est un peu le thème du soir?
Pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils ne finissent pas. C'est-à-dire qu'ils
fassent les points. Je parle en France, s'ils jouent en France.
Ah, la logique, oui. Si tu parles au niveau budget, ils seraient au niveau de Lyon, par exemple.
Parle au niveau qualité football. Hein, football.
Arrête, ne joue pas à cela, parce que tu demandes à chaque drôle de dame. Je pense qu'ils vont te mettre les 15 premiers de leur championnat, deuxième derrière le PSG.
Ils le voient.
Même Simonet est capable de dire que la SPAL, ils peuvent peut-être y arriver.
Non, la SPAL, non, mais Verona sûrement.
Voilà.
Jérôme n'est pas d'accord.
Kevin, tu poses une bonne question, mais je rappelle juste que Cologne, par exemple, il y a 2 ans, est descendu en seconde division avec 160 millions de budget. Il y a 2 internationaux ou un club, le petit club comme Fribourg, il y a juste 4 internationaux allemands dedans, quoi. Donc au bout d'un moment, si tu veux, au niveau des effectifs, c'est pas tout à fait la même chose.
Mais
vive la France, sinon. Ce qui me semble important pour Bordeaux, pour le Borussia Dortmund.
Mais qu'il a réussi à nous vendre Fribourg, quand même.
C'est un club très francophone.
Ils vont peut-être jouer l'Europe.
Est-ce que tu peux nous dire juste la moyenne de spectateurs à Fribourg et Jérôme va comparer
avec Monaco?
Ils ont un petit stade. Alors ils ont un petit stade de 24 000 places pour la Bundesliga, il est à 100%. Par contre, le nouveau va arriver dans 2-3 ans, il sera de 35 000 places.
Non mais on sait, de toute façon,
club allemand.
Non mais nous parle pas des stades, on connaît les ambiances là-bas
en
Allemagne.
Bon, arrêtez là, on perd du temps.
Coupe d'Europe, ceux de Kevin, on les a côtoyés. Hein.
Vas-y Dortmund, Polo.
Bon, concernant le Borussia Dortmund, évidemment, la nouvelle qui est aussi dramatique pour le BVB, c'est qu'après Marco Reus, Julian Brandt ne devrait pas disputer, parce que là, tout le monde dit qu'il est, enfin c'est surtout Bill qui a dit qu'il aurait pas, qu'il serait pas là pendant un mois, mais ça n'a pas été confirmé par le Borussia. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il est pas là pour le match contre Francfort. Et surtout, tu retrouves dans ce Borussia, évidemment, cette formidable équipe offensive, mais avec des faiblesses dramatiques au niveau du milieu de terrain. J'ai beaucoup apprécié Emre Can, ce qu'il a dit. Il dit, au bout d'un moment, il faudrait peut-être apprendre à jouer un petit peu ou de défendre un petit peu salement. Ce qui pose d'ailleurs la question, pour moi, de l'évolution du football allemand dans sa globalité, puisque je vous rappelle que des personnes qui ont mon âge, on a passé notre temps à nous envoyer au placard parce que nous on était un peu trop violents sur le terrain et on nous disait, et nous alors que nous on disait qu'on ne voyait jamais de guerriers aujourd'hui dans le nouveau football allemand, et que j'ai le sentiment que finalement des personnes plus intelligentes que moi comme Effenberg et Matthäus avaient peut-être raison, quoi. Et et donc ça fait partie de, à mon avis, de l'un des concepts de ce nouveau football allemand porté sur l'offensive, mais qui ne sait pas arrêter d'attaquer lorsqu'il faut. Lorsque tu mènes 3-2 à 10 minutes de la fin et que tu prends 2 buts en 2 minutes, évidemment la qualité de Leverkusen, mais ça a aussi le problème de ton équipe. Ensuite, Lucien Favre est évidemment en difficulté, mais non pas tel qu'a pu l'écrire l'équipe. C'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, les informations que je dispose, c'est que si tu veux, s'il ne gagne pas un titre cette saison, il va sauter. Donc ça, c'est des informations que j'ai de Suisse, donc de la nationalité du coach, mais surtout qu'il y a un risque, et ça on en parle depuis une quinzaine de jours sur notre antenne, c'est que le Borussia Dortmund risque de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et si le club explose, pour une raison, par exemple la défaite vendredi à domicile contre Francfort, etc., si tu veux, le match contre le PSG passe un peu en arrière-plan par rapport à ça. Et donc ça serait une catastrophe industrielle pour le Borussia Dortmund. Et s'il y a, et comme ils vont avoir des matchs importants, s'il y a vraiment une série dramatique, eh ben on peut penser que Lucien Favre saute. Le vrai problème que je vois, c'est que je le vois très fatigué en conférence de presse. Enfin, je sais pas comment si vous l'avez vu, mais et on sent qu'il sait plus où il est. Il a fait des déclarations qui me semblent dramatiques en disant que j'ai jamais vu une équipe avec autant de problèmes, j'ai jamais coaché une équipe avec autant de problèmes.
Il est à côté un peu défaitiste, hein, Fabre.
Enfin, oui, non, mais on est d'accord.
Nice,
mais
déjà,
si tu veux...
à Nice, à chaque fois, il te faisait un tableau cataclysmique de la situation.
C'est ça. On est d'accord. Alors ça, c'est tout à fait exact. Et je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Fais-moi penser à parler de Sébastien Kehl. C'est qu'en fait, quand tu le vois en conférence de presse, t'as le sentiment que c'est un professeur d'université qui passe son temps avec des profs en colloque, alors qu'en fait, en face de lui, il a des journalistes, tu vois, qui lui disent seulement quand est-ce qu'Emre Can joue, quand est-ce qu'Hollande joue, pourquoi Hollande n'a pas joué en Coupe d'Allemagne, etc. Et lui, il commence à te faire des grandes démonstrations en te disant, bah oui, mais moi, il a une petite lésion musculaire.
Parce que c'est toujours intéressant quand tu fais, en général, ces conférences de presse.
Ah mais ça, c'est extraordinaire, mais ça reste très mathématicien, mathématique dans l'explication, et il y a aucune émotion. Le problème, c'est que le Borussia Dortmund est un club très très émotionnel, et ça, Lucien Favre, ça, à mon avis, à long terme, ça devient compliqué. L'autre chose qui me perturbe beaucoup, c'est que le responsable de Lucien Favre, donc Sébastien Kehl, qui est un ancien numéro 6 d'ailleurs, qui savait mettre le pied à l'époque, et qui est une légende du Borussia Dortmund, qui est aujourd'hui le manager du secteur professionnel, donc il est en dessous de Michael Zorc. Il est venu il y a 2 ans dans ce club-là, justement, c'est des problèmes de discipline, donc lui, si tu veux, il est en train de serrer la vis, et il fait des déclarations en disant, mais moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas titularisé Hollande contre Dobrem et tout ça. C'est-à-dire que l'organigramme du Borussia Dortmund est en train...
Ils se tirent dans les pattes entre eux.
Ouais, mais là, ça commence à devenir, pour moi, malsain, parce que je trouve que ça se fait pas à ce niveau-là. Et en plus, si tu veux, au niveau des journalistes, par exemple, on est en train de commencer à reprocher à Lucien Favre de ne pas parler parfaitement l'allemand. Tu vois, je pense que si tous les Français parlaient comme Lucien Favre l'allemand, on ferait plus de business avec les Allemands, par exemple.
C'est sûr.
Hein? Donc, c'est fou. Il y a un côté un peu irrationnel, mais elle n'est pas liée à la future rencontre le PSG. C'est plus qu'il y a une frustration énorme liée, je le dis et je le répète, à cette formidable qualité qu'a cette équipe et qu'on ne voit pas forcément sur le terrain, au titre perdu l'année dernière, évidemment, et le fait qu'on est très très frustré et on sort des inepties. Il y a beaucoup d'inepties journalistiques, je trouve, en ce moment en Allemagne sur le cas Lucien Favre. Quelques journalistes le défendent en disant mais il va sauter, mais il est plus victime de la situation que lui, ce qui se passe. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà, c'est le Borussia en ce moment.
On a retrouvé Fredo.
Je suis parti faire pipi.
Ah d'accord, c'est pour ça. Donc l'info principale en Espagne, mon petit Fred.
Nabil Fekir. Enfin, c'est un match, mais c'est fabuleux. S'il faisait un match comme ça, allez, je dis pas toutes les semaines.
Enfin, il finit sur un rouge quand même.
Ouais, mais ouais, enfin, franchement, le rouge, c'est un peu appuyé parce que, en fait, il prend un jaune, c'est-à-dire que c'est un match. Bon, on va rappeler quand même que le Barça s'impose sur la pelouse du Betis Séville, hein, quand même, hein, 3-2, avec un match totalement fou, un match où le Barça s'est vraiment fait bousculer puisqu'il a été mené à 2 reprises, avec un Nabil Fekir. Je dis pas s'il jouait comme ça tous les week-ends, mais au moins, une fois tous les 3 matchs,
mais il serait l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est extraordinaire le récital qu'il a fait hier soir. Je sais pas, bon, il y avait plein de matchs importants hier, mais je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir deux, trois actions de Nabil Fekir, mais c'est, voilà, il met un but extraordinaire dans le jeu, il met la misère, pour parler poliment aux défenseurs de Barcelone, notamment à Samuel Umtiti, qui a quand même, je pense qu'on a des soucis à se faire sur l'état de forme de Samuel Umtiti.
Oui, je pense qu'il est pas pote avec l'anglais non plus, hein. Vous avez vu là, enfin, ils se sont quand même bien chauffés les deux pendant tout le match.
Oui, ça c'est clair, mais enfin, mais dans le jeu Umtiti, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est voilà, bref, il y a une action de sur juste à la limite de la ligne de corner de Nabil Fekir où on a l'impression de revoir Benzema. Vous savez ce mouvement extraordinaire où il met trois joueurs dans le vent en demi-finale de la Ligue des Champions avec le Real sur la pelouse de l'Atlético. Bah voilà, enfin, Nabil Fekir était touché par la grâce hier, c'était extraordinaire. Malheureusement, c'est le plus haut match qu'il a fait depuis qu'il est en Espagne, donc ça veut dire qu'il en fait pas souvent des comme ça, et ça n'a pas suffi pour que le Barça perde des points, ou plutôt que le Betis gagne des points face au Barça. Et Nabil Fekir est expulsé parce qu'en fin de match il met un coup, il prend un jaune, il dit un mot, il a dû apprendre l'espagnol, que n'aime pas l'arbitre, il râle et il prend un deuxième jaune dans la foulée, quoi. Donc voilà, mais c'est enfin, moi, j'ai pris un pied hier soir en voyant Nabil Fekir, qui était extraordinaire. Et je voyais les commentaires à la télé espagnole, je voyais sur les réseaux sociaux en disant, mais c'est qui ce joueur? Parce que certains, on sait qu'il est là, mais à ce niveau-là, c'est assez rare. Et j'insiste, c'est quand même dommage qu'il ne soit pas comme ça régulièrement, parce que c'était absolument
fabuleux. Ça, c'est le problème de Fekir, hein, depuis le début de sa carrière. À Lyon, on lui reprochait. Alors, on disait que c'était le contexte lyonnais où il avait cette inconstance-là, mais là. À l'arrivée,
souvent bon dans les grands matchs.
Ouais, ouais. Bah ouais, mais ça c'est le lot des grands joueurs. Après, ça reste un joueur formidable. Et c'est vrai, j'ai regardé après, je m'en suis bouffé des matchs hier.
Mais, ouais, bah, mais c'est bien t'es un pro.
Mais non, mais c'est vrai qu'il a fait, une super prestation. Il s'est transcendé. En plus, c'est une équipe qui lui correspond bien en Barcelone.
Il avait déjà marqué au match aller contre eux.
Ouais, ouais, c'était son premier but. Son premier but en Liga, c'était contre le Barça au Camp Nou.
Non, mais bon, après, il faut qu'il travaille là-dessus. Et malheureusement, le fait d'avoir choisi le Betis, alors il n'avait pas 20 000 offres non plus, mais le fait d'avoir choisi le Betis, bah, j'ai peur qu'il retombe aussi dans cette inconstance-là. Et moi, je vois pas tous les matchs.
Gros club, hein.
Oui, non, mais c'est un gros club.
Le Barça et le Real, mais,
non, mais d'accord,
l'échelle
mais oui,
de l'Espagne, c'est un gros club.
Oui, mais ils sont combien?
55 000 personnes hier au stade.
Combien?
C'est pas le niveau de la L1 quand même.
Combien milieu de tableau?
Combien ils sont? Voilà, milieu de tableau. Ils sont 12e, 13e, je crois. Donc,
est-ce qu'ils seraient 2e derrière le PSG, le Betis en Ligue 1?
Oh, arrête avec ça, putain. Il est temps que je rentre à la maison, là. Vous m'avez donné mal à la tête.
Non, mais c'est une équipe à championnat qui lui convient. C'est-à-dire que techniquement, il prend du plaisir. Ça, c'est clair, quoi. Il a joué ici. Donc, mais simplement, et pour parler sur le match globalement, voilà, c'est une rencontre très importante pour le Barça qui aurait pu, à un moment, ils ont quand même été menés deux fois, donc ils étaient virtuellement à 6 points du Real au classement. Là, on est quand même dans la dernière ligne droite, donc ça pouvait compter énormément. Messi a été extraordinaire puisqu'il a fait 3 passes décisives, mais ça fait 27 tirs cadrés de Messi sans but. Donc c'est quand même assez étonnant, mais bon, ça reviendra, ça c'est clair. Mais sincèrement, il y a un vrai problème Umtiti qui est mais totalement dépassé dans cette équipe. L'anglais a lui aussi été expulsé, il a provoqué un pénalty, mais enfin il marque le but de la victoire. Voilà, c'est un match où il y a plein de choses à analyser, et je vais terminer comme chaque semaine sur mon petit bilan Griezmann. Il a bossé, mais 0 tir cadré et une passe reçue par Messi.
Ouais, il a eu
du mal pour les
statistiques.
Ouais, il a eu beaucoup de mal. Ouais, alors que le Barça était pas trop mal dans le jeu.
Ouais, c'est vrai, ils ont eu beaucoup de possessions, tu sentais même.
Mais possessions verticales, ouais. pas l'horizontale.
Ah, ça je te le confirme.
On continue le débat dans quelques instants. Jérôme, merci beaucoup. Tu seras là demain soir dès la fin de la Coupe de France. Dès la fin de l'Euro.
Salut à tous.
Nous on continue avec les drôles de l'âme avec avec Kevin. Et il faut qu'il aille travailler ses 6 mètres du mauvais pied là. Pour demain.
Et son coup droit, il a un tournoi demain.
Ouais, c'est plus tôt le coup droit.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC. Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein. Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Bribois.
Avec Kevin Diaz, avec Frédéric Roulier, avec les drôles de l'âme, et avec Julien Cazard qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Bonsoir. Je me rends compte que je suis le remplaçant de Jérôme Bretagne pour le dernier quart d'heure. Un peu ça dans le match.
Bah non, une heure complète.
Oui, non, mais l'équivalent. C'est l'équivalent
là,
de...
il reste un tiers de match.
Ou le Cavani.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est
un
vrai.
Tiers de match,
c'est
Cavani. Reste...
Cavani, et donc lui, ce serait Icardi, donc c'est ça que t'es. Je sais pas s'il le prendra bien, Jérôme. Je sais pas. Est-ce qu'il a été remplaçant, Jérôme, à lui ou pas? Vous l'avez été toujours.
Pas attitré, c'était.
Au PSG, c'était qui? C'était pas Pancrate?
Non.
C'était Boscovitch? Je suis un peu branco, Boscovitch. Dis donc.
Parce que tu te souviens de son match face à l'OM?
Bien sûr, son doublé magnifique sur Barthez.
C'est bien le seul truc qu'il a fait, d'ailleurs, Boscovitch.
Ça suffit. Ça suffit, il y a des fois, suffit, mais ça sauve une carrière. Martin Cardetti, il a mis un but de la tête à Medrano Rogneux, ça sauve sa carrière.
Qu'est-ce qui est en train de mourir là?
On a la culture qu'on peut. Ah bah, je sais pas, moi c'est dans pas longtemps, c'est dans des jours. C'est à Dortmund.
Ah bon oui. Ah oui.
Oui, l'archétype du supporter flippé, il est là. Le petit message de Leonardo hier,
mais
c'était pour Julien.
Marrant, toi.
C'était pour Julien.
Mais Leonardo, mais lui, la fois qu'il est parti il y a 10 ans, lui, il pense que c'est la fête. Mais il va voir ce que c'est, les mecs qui font dans leur bénouse. Il sait pas, lui, encore, mais il va découvrir. Ça va lui faire tout drôle. Il est parti juste avant le, je crois qu'il est parti juste avant le PSG Chelsea. Donc il ne sait pas ce que c'est, la flip.
Et ben voilà, c'est pour bientôt. Alors, on reprend notre tour d'Europe, là. Mon petit Fredo. Rétafé, oui. En position de jouer la Ligue des Champions, ils vont y aller ou...
Ouais. Ah ben j'en suis persuadé. C'est-à-dire que je l'avais évoqué en fin de saison dernière.
C'est Créteil en Ligue des Champions, quoi, pour rapporter ça à notre championnat.
Non, c'est un club de Ligue 1. Rétafé, c'est ça, ça joue Ligue 1, quoi.
Rétafé en Ligue 1.
Non, ça joue un peu Ligue 1. C'est un petit Ligue 1.
C'est restrictif, oui.
Ouais, mais sauf que c'est du sérieux, c'est du compétitif. C'est-à-dire que c'est du.
Tu veux dire que c'est pas compétitif la Ligue 1? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'on perdrait contre Cluj en Coupe d'Europe?
Daniel Rulor sort de ce corps.
Mais tu sais, on a des yeux comme tout le monde.
Oui, non, mais Rétafé, moi je me prépare déjà à aller en banlieue sud de Madrid l'année prochaine en Ligue des Champions. Hein.
La banlieue, quelle heure.
Je pense que ça ne sera pas l'Atlético, parce que l'Atlético, je pense qu'ils ne vont pas se qualifier. Mais c'est simple, il y a 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le Real, le Barça, qui vont jouer le titre. Je pense que Rétafé va terminer 3e. Et donc après, tu as l'Atlético, tu as Séville, tu as Valence, et tu as surtout la Real Sociedad pour la 4e place.
Fred, qu'est-ce qui te rend aussi confiant dans les possibilités de Rétafé, en fait? Qu'est-ce qui te donne la pression qu'ils vont finir 3e?
Parce que c'est l'équipe la plus sûre avec le Real de Liga défensivement. C'est-à-dire qu'ils peuvent. C'est rare qu'ils fassent des conneries. Tu vois, c'est ça. Donc, la Liga, c'est quand même le tournoi de la régularité. Mm-hmm. Enfin, tout championnat. Donc, c'est une équipe qui commet très, très peu d'erreurs. Et c'est tactiquement excellent. Avec un très bon entraîneur, José Roche Bordalas, dont on parle déjà comme un possible successeur de Simone à l'Atlético. Attention, c'est pas n'importe quoi. Ce sont des mecs qui sont extrêmement bien formés, qui sont physiquement en forme. Tu as Jorge Molina, l'attaquant, qui va avoir 38 ans en avril, qui a encore marqué 2 buts, là. Il y a des gens, tu sais, il y a des types qui sont des, dans le foot, on a tous vu ça, des espoirs à 16 ans. Et puis il y a des mecs qui ont besoin de beaucoup de temps pour mûrir et qui sont extraordinaires quand ils s'approchent de 40 ans. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai vu Rétafé mais plein de matchs cette saison. Hein, j'en ai vu aussi au stade. C'est-à-dire qu'il faut être très très costaud pour pouvoir les battre. Et moi je pense qu'il y a un test énorme. Et moi ça sera en Ligue Europa. Ils rencontrent quand même en 16e de finale l'Ajax. Et je pense que l'Ajax. Mais le pire tirage pour l'Ajax, c'est Rétafé. C'est l'inverse de leur jeu, mais c'est d'une sécurité, c'est d'une efficacité. Ils ont quand même passé 3 buts à Valence. C'est-à-dire, Rétafé, c'est l'équipe solide qui te permet pas une seule connerie parce qu'elle te punit tout de suite. Et quand je vois le reste des équipes de la Liga...
C'est pas plus stressé que ça.
Il a l'air acide. Quand on voit les absents du côté de l'Ajax et la qualité de jeu proposée, ouais, c'est compliqué. Sachant que tu me dis qu'ils ont mis 3-0 à Valence, que j'avais déjà vu, ce que j'ai vu, c'était il y a pas longtemps d'ailleurs, et que Valence a éliminé l'Ajax, ouais, ça va être compliqué.
Ouais. Mais parce que ils sont, les coupes d'Europe, c'est simple, c'est quand même, faut d'abord pas faire d'erreurs, être très bon défensivement. Rétafé est un modèle à ce niveau-là. Et je vais dire que le jeu s'est un petit peu amélioré, parce que l'an dernier c'était un peu chiant. Là, il marque un peu plus de buts. Voilà, c'est. Mais je vois pas d'autres équipes aussi solides en Liga. Je pense que pour moi, la 3e place, elle va être attribuée à Rétafé pour une raison aussi qui est. Je pense, ça c'est vraiment un sentiment personnel, que l'an dernier. On peut pas dire que les arbitres aient beaucoup aidé pour que Rétafé termine 4e. Il y a eu quelques décisions qui étaient pas, ça faisait pas très chic que le 4e représentant espagnol en Ligue des Champions soit Rétafé. Et j'ai je parle pas de complot, mais vous savez, ce petit sentiment, voilà, où on favorise pas forcément le petit, je pense que Rétafé a été souvent défavorisé par ça. Sauf qu'aujourd'hui, Rétafé, qui n'est pas un grand club, mais c'est une grande équipe aujourd'hui, a réussi à se faire respecter un peu plus, et on ne siffle pas pas si facilement contre Retafe aujourd'hui en championnat espagnol.
Fred, excuse-moi, mais il y a quelques années, tu nous vendais du rêve, tu nous vendais du tiki-taka, là, tu nous parles d'un Real qui prend pas de but, qui fait des clean sheets, tu nous parles de Retafe qui est solide, tu nous parles de Simeone, putain, mais qu'est-ce qui, tu nous parles d'un arbitrage, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Je vais te dire, Julien, j'ai eu 50 ans lundi, je sors plus.
Mais je le sens, mais c'est terrible. Là, t'as plus de romantisme, là, je te jure, on dirait que tu me parles de Angers-Brest. Ah non, j'ai envie de chialer, là. Donc si c'est pour ça, c'est pas la peine qu'on paye une ligne téléphonique et des, tu vois, qui va jusqu'en Espagne. Hein.
Non, parce que c'est pas une ligne téléphonique. Alors je vais t'expliquer un truc. Alors, en plus, t'es venu chez moi l'autre jour, t'as pas bien regardé l'appareil du Scampenas Scoopy. Maintenant, ça passe par la fibre d'internet. Tu comprends, il n'y a pas besoin d'une ligne en plus. Simplement, ta ligne fibre, ça suffit. D'accord. Je coûte encore moins cher qu'RMC qu'avant, tu vois.
Ouais, bah encore heureux.
Je pense que je suis le correspondant parfait.
Ça, c'est la force SFR, ça. Simone, mon petit Simone, là, on va revenir vers toi dans quelques secondes. Mais d'abord, j'aimerais que Julien nous raconte Guardiola, qui avance l'idée éventuelle possible de plus éclairer la saison prochaine.
C'est un peu ça, effectivement. Ouais, avant le match donc contre West Ham qui a été reporté à cause de l'ouragan, mais il nous avait fait une petite conférence de presse dont il a secret par moment où effectivement il avait laissé planer un petit peu le doute en disant que Manchester City, même quand il partirait, serait encore assez solide, que s'il ne gagnait pas la Ligue des Champions cette saison, il deviendrait un échec, il serait considéré comme un échec et son passage au club serait considéré comme un échec. Et ce genre de discours-là que tu entends parfois venir de la part d'entraîneurs qui ont déjà l'esprit un petit peu ailleurs. On l'avait vu avec Pochettino, par exemple, en fin de saison dernière, avant la Ligue des Champions, en disant, bon, si on gagne, je pourrais partir, mais ce club-là pourrait continuer à avancer sans moi aussi. Ce genre de choses-là qui, effectivement, n'envoie peut-être pas forcément le meilleur des messages à un certain moment dans une saison. Et Guardiola, qui a beaucoup souffert cette saison, parce que son équipe a beaucoup plus perdu que d'habitude en championnat, parce que le football produit est parfois un petit peu moins fluide, et surtout parce que Liverpool est en train de devenir la meilleure équipe en Europe, la meilleure équipe au monde, et qui est en train de faire passer un petit peu City au second plan. Et je pense que Guardiola a beaucoup de problèmes pour assumer la domination de Liverpool et la domination de Klopp, et qu'il a un petit peu de mal à trouver les réponses aux problèmes que son équipe peut avoir, défensivement notamment. Et c'est vrai que t'es en train de te demander, est-ce qu'il sera encore là la saison prochaine?
Bon, ce serait effectivement une petite révolution à l'échelle de l'Angleterre. Et puis surtout, s'il s'en va, c'est pour aller où?
Ah bah, à ton avis.
On sait alors, qui c'est, alors, qui peut une idée? Non. Qui peut payer son salaire? Alors,
moi, je pense que c'est la Juve. Bah ouais. Oui, la Juve, t'as raison.
Lucas passe son rêve, là, Julien, attends.
Non, tu crois que je rêve d'avoir un Catalan, moi, merci. J'ai jamais rêvé d'avoir un Catalan. Je rêve pas d'avoir Messi déjà. Je rêve pas d'avoir Guardiola. Merci. Il est ailleurs.
Messi, il est pas Catalan. Hein.
Ah bon? Bah va lui demander. Va dire en Argentine qu'il est pas Catalan.
Une question rapide pour Julien. Salut Julien. Salut. Il y a aujourd'hui en Angleterre une incertitude qui est quand même très relative quant à la fin de saison. On sait qu'il va être champion. On sait plus ou moins qu'il va finir dans les quatre premiers. Où est-ce que les Anglais trouvent de l'intérêt? Et où est-ce qu'ils arrivent à...
Ouh là là, attends, t'es nouveau et tout de suite comme ça tu...
Il s'appelle Frédéric, il pose les bonnes questions. C'est tout. C'est un très bon journaliste, Frédéric. Tu as raison, Fred.
Oh là là.
Il faut mettre le doigt là où ça fait mal.
Et précisons qu'il n'y a plus d'anglais, il n'y a que...
Ah, toi aussi tu vas t'y mettre. Ah, bravo.
Non, mais c'était sérieux, c'était même pas pour te taquiner, Julien. C'est simplement.
Non, je te charrie,
Non, mais t'as raison. On a décidé où est-ce qu'on peut trouver de l'enthousiasme en Angleterre?
Alors tu le trouves dans cette saison exceptionnelle de Liverpool et jusqu'où est-ce qu'ils vont aller cette saison et tous ces records dont on parle souvent dans l'émission. Ah, ça va, pour une fois que t'as une course au titre dans ton championnat. Non, alors après je pense qu'effectivement pour Manchester City en deuxième place et Leicester en troisième, c'est à peu près c'est assez réglé. Mm-hmm. Pour la quatrième place, tu pourrais penser qu'à un moment ça pourrait l'écart pourrait se réduire un petit peu entre Chelsea et les poursuivants, que Tottenham puisse revenir avec Mourinho, que Manchester United à un moment, je sais pas, que Ole Gunnar Solskjaer se transforme en un bon entraîneur et que ça relance un petit peu cette équipe avec le retour de Pogba. Bah voilà, il y a avec Desi. Non mais tu sais jamais, ça peut se passer. Non mais j'essaye, même moi.
C'est dur. Mais
Non mais je sais pas, c'est la semaine dernière ou c'est d'avant.
Plus convaincant.
Mais toi avec ton championnat mineur, je t'ai déjà dit. Non mais sérieusement, c'est vrai que c'est une saison fascinante parce que Liverpool est trop fort, parce que les autres grosses équipes, comme on l'a souvent dit dans l'émission, sont en transition. À part Manchester City, mais qui a du mal cette saison, mais les autres, Chelsea, Manchester United, Arsenal,
Liverpool, c'est trop fort, les autres sont trop faibles.
C'est un peu les deux, Simonet, c'est un peu les deux, mais c'est pas grave, c'est pas du tout insultant envers la première ligue, ça reste un championnat tu sais, très
Julien,
haut niveau.
Julien, et tu sais que tu nous payeras un nouveau resto quand tu vas gagner au moins la Ligue.
Mais bien sûr, mais je laisse parler, Kevin, tu sais, je laisse parler. Alors Fred Hermel, on va lui briser son cœur une fois que Manchester City, qui est quand même très moyen cette saison, va éliminer le Real Madrid de Zizou.
Ah bah ça je veux le voir.
Les Allemands, on en parle même pas. Là je vous laisse parler, je vous laisse parler tranquillement.
Excuse-moi, Julien, t'as pris du Captagon ou quoi qui t'arrive?
Non non, mais écoute, c'était les vacances ce week-end, j'étais tranquille. Ce week-end j'étais tranquille, donc effectivement je suis.
Moi je suis à Paris.
Tu vois, j'ai rechargé un petit peu les batteries là.
Fred veut faire un pari.
Attention, c'est très important.
Oula, oula.
Si City oula. Élimine le Real, je deviens végétarien pendant une semaine.
Oh.
Ah ouais.
Ah là, c'est bien, c'est
ouais. Ce serait beau. Et ça, pour Fred, ce serait beau. Je peux vous dire que c'est un sacré engagement.
Ouais.
Il y a pas des steaks végétaux maintenant, un truc comme ça.
Alors je déteste.
Steak de tofu,
mais pas, tofu. S'il aime pas les, s'il aime pas les steaks, pourquoi il veut faire des steaks végétaux par jour?
C'est le film Soleil Vert, c'est ça là.
Exactement. Hein,
avec Houston.
Ouais. Très bien, ce pari a été enregistré. Je rappelle que Julien, si le PSG élimine Dortmund, paye à bouffer à tout le monde.
Ouais.
Ça s'est enregistré aussi. Et donc,
je suis à Casar, parce que je viens à Laurence.
Je suis à Casar. Oui, non, c'est pas la même école, moi, je tiens mes promesses. Bon, revenons en Italie, là, parce que Simonet, finalement, n'a pas beaucoup parlé, alors qu'il a un championnat, quand même, qui est.
Mais il est encore dans l'avion. Là,
avec un suspense incroyable.
Peut-être un peu dans l'avion, oui.
Pour une fois.
Moi, je constate quand même, Simonet, que tu parles beaucoup de la Juve et de l'Inter, mais assez peu de la Lazio, quand même.
Mais oui, alors déjà c'est vrai parce que la Lazio en rapport à Juve et Inter a un peu moins des stars, ou quand même n'a pas les stars des joueurs des premiers plans, donc au-delà des exploits des Immobiliers, c'est difficile parfois de séduire avec les joueurs de la Lazio, mais c'est vrai que ce qu'ils sont en train de faire c'est toujours extraordinaire. La force des Inzaghi cette saison, c'était de mettre toute la qualité sur le terrain. Il a toujours eu beaucoup d'importance à la Lazio en milieu de terrain comme Parolo, qui aujourd'hui, bien sûr, il a 35 ans, donc aussi l'âge aide à les laisser un peu plus sur le manque de touches. Mais ce que a fait Inzaghi, c'est de mettre ses joueurs plus de qualité, comme Correa, comme Luis Alberto, tous sur le terrain, dans ces 3-5-2 où l'importance de latéraux est évident et il n'y a pas besoin toujours d'avoir des latéraux qui attaquent tout le temps, hein, parce que Lulic, le capitaine, c'est un joueur d'une sagesse tactique qui est beaucoup supérieure à sa force physique et à son et à sa vitesse. L'autre chose qu'il est en train de faire Simone Inzaghi, c'est d'avoir donné une deuxième vie, une deuxième, on peut dire, jeunesse à un attaquant comme Caicedo, qui a toujours été les remplaçants parfaits, on peut dire, dans les équipes où il a passé. Et il fait la même chose aussi à la Lazio, où il est aussi l'homme des buts importants à la 93e minute, 97e minute comme face à Cagliari, 93e à Sassuolo, hier à Parme. C'est pas un effectif hyper large. C'est pas un effectif hyper large. Hein. Il a 12, 13, 14 joueurs peut-être. C'est pour ça aussi que si je dois avoir une tête à tête, j'y regarde plus Inter et Juve, parce que la Lazio n'a pas des coupes, oui, mais je me demande qu'est-ce que ça peut arriver si Mobilet se blesse de 3 semaines, si Luis Alberto.
Dans la confrontation directe, on a quoi comme match encore là entre les trois? T'as ça en tête ou pas?
Non, tu as la Juve doit jouer face à la Lazio en fin de saison.
À Turin ou à Rome?
À Turin. Samedi ou dimanche? Dimanche, je dirais, il y a Lazio Inter. Donc ah oui. Là, c'est. C'est une sacrée tête-à-tête pour cette deuxième place. Et attention, parce que 3 jours après les matchs allés à Lyon, la Juve reçoit l'Inter. Donc, quand je disais qu'en Italie, il y a beaucoup de polémiques autour de Sarri, les prochains 2-3 semaines vont être, je ne dis pas importants pour son avenir, parce que je ne crois pas que la Juve va changer d'entraîneur. Mais face à Lyon et 3 jours plus tard face à l'Inter, on verra vraiment si la Juve a tous les cartes pour aller à fond dans les deux compétitions. Ou non.
Simonet, moi, je sais pas. Bon, je pense que tu vas partager mon avis, mais j'ai quand même l'impression que, alors, on blaguait là un peu avec Julien et ton championnat italien, mais je trouve quand même que quand tu vois le match d'hier entre, alors même si Okez, Zlatan, il est plus tout jeune, mais quand tu vois ce match avec ce stade rempli, on retrouve quand même une meilleure image de cette Serie A, et je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux. Et le match d'hier, que ce soit sur, en dehors du terrain, dans l'atmosphère, je trouve qu'on retrouve quand même, bon, on a retrouvé un grand derby de Milan, même si
On sait que le Milan n'est plus forcément au niveau qu'on l'attend, mais,
non, mais le match d'hier était génial.
Le match d'hier était génial et la Serie A va de mieux en mieux, non?
Moi, je trouve qu'il y a une 4-5 clubs qui font bien figurer la Serie A en Italie et on verra s'ils sont capables même en Europe. L'Atalanta, on en a déjà parlé 1000 fois. Inter et Juve, on part souvent, même si la Juve n'est pas très bien. La Lazio, on sait très bien qu'elle a sacrifié la Ligue Europa. Je trouve qu'à niveau de image, à niveau d'engagement, à niveau des publics, l'Inter cette année, en cumulant tous les supporters qu'il y a eu à San Siro, on a dépassé les millions de spectateurs, la moyenne qui dépasse les 60 000 spectateurs. C'est vrai que en Allemagne, en Angleterre, il y a des chiffres bien supérieurs, mais on était tombé vraiment en bas. Et c'est vrai que la dynamique est plutôt positive. Il faut aussi remercier les petites équipes parce que et les entraîneurs qui montent. Parce que j'espère pouvoir parler un peu des Juric, mais Juric est en train de faire quelque chose
d'extraordinaire.
Je croyais que tu allais dire il faut aussi remercier Cristiano Ronaldo.
Bah, Cristiano, c'est plus vraiment un niveau de marketing, d'image, même pas des droits télé, parce que l'Italie à l'étranger, imaginez, gagne autant que droits télé que l'Angleterre seulement dans les pays du nord d'Europe. Donc, on n'arrive pas encore à vendre bien les produits. Mais c'est vrai que...
Dis-moi, Simone, c'est quoi cet article dans la presse italienne sur le mal-être de Cristiano Ronaldo ?
Oh non !
Non.
T'es sérieux ?
Alors, l'article...
Bah non, mais c'est vrai en plus, hein.
L'article qui est sorti aujourd'hui sur Tuttosport disait que Ronaldo était très énervé, très en colère pour la façon dont la Juve a perdu. On rappelle qu'il a battu un record historique de la Juve ce week-end, 10e match consécutif avec au moins un but marqué. Il dépasse David Trezeguet. Et on a l'impression, et plusieurs l'ont écrit aujourd'hui, que la Juve est Cristiano plus 10. L'impression, c'est qu'il ne soit pas du tout content de comment la Juve est en train de gérer les matchs, gérer les résultats. Imaginez que sur 31 buts encaissés, la Juve cette saison, 22 sont arrivés quand la Juve est menée au score. Donc il y a une façon de se relaxer qui est incroyable et Sarri n'arrive pas à trouver de réponse. Et j'ai l'impression qu'un gagneur comme Cristiano, quand on voit ses coéquipiers qui perdent vraiment le contrôle d'un match comme celui de Vérone, il devient fou. Je ne crois pas à un Cristiano aujourd'hui qui pense... dès aujourd'hui à qu'est-ce qu'il va faire la saison prochaine. Mais si la Juve va échouer en Ligue des Champions et en championnat, je pense que la question va se poser.
Moi, les informations qui viennent de l'entourage, c'est que il sait qu'il a fait une connerie en allant à la Juve, quoi. Il aurait voulu rester au Real. Il y a eu toute cette histoire d'ultimatum avec le club, etc. et la dispute avec Florentino Pérez. Mais sincèrement, Cristiano Ronaldo ne s'est jamais vraiment bien senti à Turin. Pas 100% épanoui. Et donc, cet article, on en a parlé en Espagne, parce que ça reflète quelque chose qu'on renifle, qu'on sent. Voilà, il regrette d'être parti d'Espagne, quoi. Ça, c'est une réalité. Et je parle pas de rumeurs, je te parle d'informations très, très, de gens très, très.
Oh, j'ai les mêmes infos sur Rabiot, dis donc. Il regrette le PSG. Mais je suis moins sûr des sources. Deux, trois petites infos pour conclure. Raconte l'histoire des chaussettes de Silivé. Julien.
Ah oui, très très bon. Ce week-end, Djibril Sidibé était remplaçant donc avec Everton contre Crystal Palace à domicile. Théo Walcott se blesse après 25 minutes de jeu. Donc Carlo Ancelotti se retourne et fait signe à Sidibé de venir pour entrer en jeu. Donc Sidibé enlève le survêtement, il est sur la ligne de touche, il est prêt à entrer en jeu et il se rend compte qu'il avait mis qu'une seule chaussette. À ce niveau-là. Je trouve ça. Et donc Carlo s'est retourné en disant mais c'est quoi ce bordel, mais comment c'est possible qu'à ce niveau-là le mec ne mette qu'une chaussette? Et donc il a mis sa chaussure de foot sur le pied gauche sans la chaussette. Et à aucun moment il s'est dit ouais, mais peut-être ça manque quelque chose là.
Pied, le gars, tu mets ta chaussure.
Non, mais les, tu sais que maintenant les joueurs de foot ont des sockets, donc des oui. chaussettes souvent blanches et qui mettent juste oui. la chaussette oui. coupée par dessus. Oui. C'est la chaussette coupée qui lui manquait. Donc il avait pas le sentiment.
Ah d'accord.
Bon, okay. Je l'excuse oui. pas, mais parce que moi j'ai
commenté ce match. Mais le protège tibia, il le colle du coup avec le colle
non,
cul.
Le protège tibia, il est dans une autre chaussette. Oui, mais là, il est intégré.
S'il a plus de chaussettes, mais ils ont combien de chaussettes les mecs dans
ils ont trois chaussettes.
Dont une coupée.
Et
l'autre petite histoire sympa du week-end. C'est Julien. Que Kaka, le Brésilien, l'ancien du Real Madrid et de Milan, était à Londres samedi pour une opération commerciale de son sponsor Adidas pour le lancement des nouvelles Predators. Adidas avait lancé cette opération où tu pouvais envoyer un message sur un numéro, un message WhatsApp, si te manquait des joueurs dans ton équipe de foot pour ce jour-là, donc samedi, soit 7 contre 7, 11 contre 11, 5 contre 5, peu importe. Et Adidas te ramenait un joueur. Et c'est avéré que dans un de ces matchs-là, ils ont ramené Kaka. Et donc, Kaka a joué. Il marque effectivement, Kevin, tu as raison, ce but fantastique, pied gauche. Et à un moment où, donc, il déborde un peu sur le côté, t'as quand même un mec qui lui dit, Kaka, centre, centre. Et Kaka met une frappe pied gauche pleine lucarne. Et tu te demandes, mais quel est le con qui, à un moment, demande à Kaka de faire le centre alors que tu sais qu'il va frapper quand même.
Ça peut être que Fred Hermel. Il a dit qu'il était nul.
Ça peut être que Fred Hermel, qui bientôt va perdre 20 kilos puisqu'il mangera. Bientôt il va perdre 20 kilos puisqu'il mangera plus de viande rouge du tout.
Pendant une semaine. Hein.
Mais sinon, il faut dire aussi que Kaka s'est mangé un petit pont dans ce match-là. Donc voilà, c'était une belle après-midi. Mais Kaka s'est quand même mangé un petit pont.
Quel est le vilain garçon qui a osé faire un petit pont sur Kaka?
Bah, c'est un manque de respect effectivement énorme, mais bon, c'était très sympa de la part de Kaka. C'est très marrant, effectivement. C'est très sympa.
Voir Jérôme Breton déboler dans un match de 5 au 5 de Montreuil.
Ah bah, le problème, c'est qu'il prend un petit pont, Jérôme, il y a bagarre après.
Bah, voilà, c'est ça. Puis si l'arbitre prend une mauvaise décision, il s'en va. Enfin, on reconnaît le mec. Fred.
Oui.
Excuse-moi, mais plutôt que parler du Real, je veux que tu nous racontes l'échauffement de Ben Arfa. Est-ce que ça a fait du buzz
star
en Espagne?
Mondial, d'après le porte-parole de Ronaldo, le président de la Ligue.
Ouais, sauf que, la vidéo de son échauffement a fait aussi le tour du monde.
Oui.
On peut pas dire que ce soit l'échauffement le plus engagé de l'histoire du football. Si vous l'avez pas vu, allez sur les réseaux sociaux, c'est assez exceptionnel. Hein.
Bon, il se trouve que on va parler de ça, puis après je vous raconter un truc du vestiaire de Valladolid avec Ben Arfa parce que c'est l'after et on raconte les trucs. Alors il est rentré à quelques minutes de la fin, mais sincèrement on l'appelle déjà le Galactico de Pucela. Pucela, c'est le stade de Valladolid.
Je vous promets,
on l'appelle comme Dieu, ça parce que t'imagines pour Valladolid, enfin t'as Ronaldo Nazario comme président et propriétaire et actionnaire majoritaire, et puis t'as Ben Arfa, c'est vrai que ça apporte un peu de joie. Sincèrement, c'était pas brillant. Alors quand il était en jeu, bon, il se trouve que Valladolid était bien malmené à ce moment-là, mais c'est vrai que l'échauffement, même moi, je fais mieux, quoi.
Ah non, mais c'était incroyable.
Ah, mais c'est
foutage de gueule, enfin, franchement. Ouais.
Alors après, ce sont pas des images qu'on a vues à la télé. Moi, je les ai vues a posteriori sur Twitter, mais c'est sont pas des sur Instagram aussi. Mais à la télé, on les a pas vues, quoi. Tu vois, c'est après. Voilà, on peut pas dire que Ben Arfa ait mis un enthousiasme extraordinaire.
Ils ont une histoire de vestiaire, c'est quoi?
Ah, j'ai un très 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 bon ami qui est très 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 ami avec un joueur du vestiaire, et l'une des premières demandes de Ben Arfa dans le vestiaire quand il arrive, c'est quoi les endroits pour sortir? Mais vraiment,
c'est le comportement, ça vient de jouer.
Et les mecs ont dit, ah, il nous plaît bien celui-là, quoi. C'est pas, alors on joue, c'est quel système, tout ça. C'est quoi les endroits pour sortir, Valladolid? Voilà, donc.
Bah, il veut s'intégrer rapidement, si tu veux.
Et moi, j'aime bien ça, il va parler.
C'est le team building. Ça,
moi, je trouve ça très bien, franchement.
Bon.
Oui, non, toi, c'est normal. C'est la première fois qu'on arrive à Madrid.
C'est fini.
T'as rappelé toi.
Moi, c'est fini.
Ah oui, c'est vrai. Avec les cocktails Hermel dans les bars à Madrid.
Il existe toujours, mais j'en vois plus quasiment. Julien, il est venu chez moi l'autre jour, on a bu quoi, un peu de blanc.
Oh, il m'a fait presque de la peine.
Et puis quoi, puis j'ai dit, je peux pas sortir, Julien, j'ai l'after. Puis après, je me suis couché, tisane, un super
Yoli. C'est vrai, en plus. Oh là 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 là. Elles m'ont dit, mais il est où, Fred? J'ai dit, il vient pas. Mais pourquoi?
C'était Dalida, en fait.
Ouais, alors ouais, c'est une amie, hein, une amie qui bosse dans un bar.
Firas est là pour conclure. Salut, Firas.
Salut à tous, bonsoir.
Ça va, Firas?
Ouais, ça va et toi?
Salut. Bon, t'écoute, salut. Tu voulais parler un peu du Real?
Ouais, je voulais revenir un peu sur la prestation du Real et de Benzema qui entre encore un peu plus dans l'histoire avec sa 132e passe décisive.
Alors ouais, par rapport à ça, c'est-à-dire que sincèrement, c'est une statistique que j'ai pas pu vérifier. C'est-à-dire que Benzema soit devenu le joueur avec le plus de passes décisives de l'histoire. Après, parce que le gros problème par rapport à ça, c'est que en fait, on compte les buts depuis toujours, mais pas les passes décisives. Voilà, c'est-à-dire que je sais pas à partir de quand comment on a commencé dans les statistiques à compter les passes décisives.
Ouais, certains comptent leur but à l'entraînement, tu sais.
Oui, Mbappé,
voilà,
oui.
Donc, voilà, donc, je sais pas, après que Benzema, alors, 132 pour Benzema, 131 pour Ronaldo. Sincèrement, je suis pas 100% sûr. mais c'est pas grave. L'important, c'est que Benzema, il a encore fait un match d'une grande intelligence sur un stade très compliqué, parce que pour le Real, à jouer à Pamplune, c'est toujours, parce que ça, c'est dur, hein, c'est des stades où tu t'en prends plein les miches. Et c'est vrai que Karim a fait un match très intelligent, et la passe décisive qu'il donne pour Lucas Vázquez, la manière d'attendre, sans que les défenseurs te prennent la balle et de donner la balle au bon moment, ça, c'était d'une élégance et d'une classe exceptionnelle, quoi. Mais au-delà de ça, tu voulais parler du Real parce que c'était un match très sérieux. C'est un match, et moi tu vas me dire ce que t'en penses, pour moi ce Real de cette saison-là, aujourd'hui, me rappelle le Real de la saison 2016-2017 quand il gagne le titre, enfin quand il gagne 4 titres, dont la Liga et la Ligue des Champions.
Bah, c'est ça, parce que justement en fait, il y a le petit indicateur avec le but de Disco, justement, qui avait fait justement cette saison-là... Il y a eu un rôle entre guillemets de super sub, même si Isco est à un niveau au-dessus que d'un simple remplaçant, mais on l'avait un peu perdu des radars dernièrement. Et hier, il marque un but.
C'est le meilleur du match, hein, Isco. Il fait un match extraordinaire.
Ouais, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il revient. Alors, je sais pas. J'ai l'impression qu'avec Zidane, c'est un peu l'amour vache. Je t'aime moi non plus. Il s'aime sur une saison. La saison d'après.
Non. Je vais t'expliquer. Je vais te donner l'information. Ils s'entendent très bien. Simplement, Isco, c'est pas un monstre de régularité, un monstre de travail. C'est-à-dire que quand il est concentré sur le football, il est extraordinaire, mais par moment, il pense à autre chose, quoi. Donc, ça dépend dans quelle période tu le prends. Mais attends, beaucoup de gens voulaient le vendre cet été, et c'est Zidane qui a demandé à ce qu'il reste au club, quand même. Attention.
Non, mais voilà, tu vois. Donc, parce que je disais pas que Zidane, là, il avait pris en grippe ou quoi. Loin de là, parce que là, il avait été ultra important lors des deux premières saisons de Zizou. Seulement, dans ce manque de régularité, c'est vrai qu'on voit que quand il revient bien, ça aide pas mal l'équipe quand même, malgré tout avec la longue absence d'Eden Hazard. Le petit point négatif sur lequel je voulais revenir, c'est la défense qui est un peu moins sereine depuis 2-3 matchs.
Alors je vais t'expliquer.
C'est pas l'alerte rouge, c'est juste voilà.
On a plus le temps.
S'il y a vraiment un point
négatif. La défense rapide, c'est que ça dépend. La défense d'hier, c'est avec Mendy et pas Marcelo, c'est avec Varane. Voilà, et ça change beaucoup de choses. Et avec Casemiro en coupe, où ils s'en sont pris 3-4, il n'y avait pas ces joueurs-là.
Et puis Pierrot nous rappelle que Valladolid avait eu un autre grand numéro 10 qui venait de France, Valderrama, donc qui était passé par Valladolid.
C'est vrai. Oui, Carlos Valderrama.
Exactement.
C'est là qu'il s'est tripoté les roulettes.
Par Michel.
Mais oui.
C'est un match contre Valladolid.
Voilà. Magnifique.
Les Coronets.
Non, c'est lui qui tripote, non ?
C'est lui qui tripote.
Non, c'est Michel qui tripote.
Non, c'est Valderrama qui tripote.
C'est Valderrama qui tripote les joyeuses de Michel.
Eh oui, tout à fait.
Attends, mais c'est pas Michel Valderrama.
Pourquoi vous parlez de Valderrama le premier soir de Frédéric?
Exactement, j'allais vous dire, c'est une inspiration capillaire totale.
On l'a couleur arrive. Maintenant, tu me fais douter.
La couleur
arrive. Je vois Valderrama qui se baisse comme ça, puis tu regardes.
Ah non, mais c'est Michel qui
touche Valderrama. Ah, t'as raison.
Mais je les connais, attendez.
C'est Michel. Mais oui, c'est Michel.
Mais sûr, c'est Michel.
Mais oui, t'as le poster dans ta chambre.
Gilbert, j'ai 15 secondes.
15 secondes, pas plus.
15 secondes pour venir à Dortmund, c'est la crise évidemment sur le terrain, mais c'est la crise dans les tribunes aussi. C'est la crise dans les tribunes puisque les joueurs, les supporters, donc plus de 80 000 de moyenne évidemment au Signal Iduna Park, en ont marre d'aller chercher leur propre bière puisqu'ils ratent l'occasion de voir les buts. Et donc ils ont décidé de s'associer et ils cherchent des beer sherpas, des sherpas de la bière. On leur paye les billets pour qu'ils aillent chercher la bière pour eux. Et enfin, si vous voulez, ils ont fait le calcul par supporter, ça fait 5 bières par supporter en moyenne pendant le match, et donc voilà, c'est ce qui va se passer. Voilà, bah oui,
en plus c'est avec de l'alcool,
c'est de la bière de la soif,
c'est les bières avec alcool.
Pas, mais non,
il y a rien du tout, la bière allemande, ça
les fameuses bières de soif de Polo. Pas méchant, là.
Julien voudrait donner de la bière pour les joueurs.
Voilà la photo,
le poster de Fred.
Dans quelques instants, on est de retour avec une plongée dans le choix de la famille Pinot concernant Olivier Létang, parce que Julien est partout et il était présent, évidemment. Merci les drôles d'âme, et on se retrouve tout de suite dans l'after. Il y a un quiz à venir d'ici un petit quart d'heure.
Ciao.
Salut.
Salut à tous.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.